Bonjour frères et sœurs, content de vous retrouver. Et nous voulons ensemble donc partager la parole. Donc je vais m'arrêter quelque temps dans le parcours de l'évangile de Luc pour voir avec vous aujourd'hui ce texte qui se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, parce que notre frère Marc nous a parlé donc des luttes spirituelles. Nous avons lu ce texte d'Éphésiens. Alors, mais il y a bien d'autres luttes dans notre vie. Et parmi les luttes que les uns et les autres peuvent rencontrer ou vont rencontrer, parce que ça fait partie de la vie, c'est pouvoir supporter les épreuves, supporter les afflictions, supporter les souffrances lorsqu'on est malade. Et la question, c'est comment apprendre à supporter les épreuves que nous rencontrons. Et dans cet épître de Paul aux Thessaloniciens, dans ce premier chapitre, je vais souligner quelques éléments qui pourraient nous aider à pouvoir supporter les épreuves de la vie. Mais pour cela, il faut apprendre à le faire. Donc l'apôtre Paul, il écrit donc la première épître aux Thessaloniciens. Donc après avoir écrit la première épître, il va écrire donc une deuxième lettre à cette église, cette jeune église de Thessalonique, alors qu'il était donc lors de son deuxième voyage missionnaire, donc certainement à Corinthe. Donc il reçoit des nouvelles de cette église et il apprend que face à la persécution, la foi et l'amour de ces chrétiens ne cessaient de progresser, ce qui est une très très bonne chose. Mais il apprend aussi que certaines erreurs doctrinales s'étaient introduites dans l'église concernant notamment le retour de Jésus. Et donc, ça a incité donc, même certaines personnes à ne plus travailler. Et donc, l'apôtre Paul va écrire cette deuxième lettre aux Thessaloniciens pour encourager et féliciter ces jeunes chrétiens pour leur progrès spirituel, mais aussi pour corriger les faux enseignements concernant le retour de Jésus, et pour adresser quelques recommandations sur la bonne attitude à adopter en attendant le retour de Jésus. Alors j'aimerais lire avec vous ce premier chapitre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, dans une méditation, je lisais qu'à l'école, nous apprenons les leçons, puis nous passons une épreuve pour vérifier que nous les avons bien assimilées. Tandis qu'à l'école de la vie, nous subissons d'abord les épreuves, puis nous en tirons les leçons. Et l'une des leçons que l'apôtre Paul a apprises dans les moments difficiles, c'est cette réponse que le Seigneur Jésus lui donne alors qu'il était dans la souffrance, alors qu'il a reçu cette écharde, il dit, dans la chair. Il a prié le Seigneur à trois reprises, lui disant de l'éloigner de lui, cet ange de Satan, pour venir le souffleter, il dit. Et la réponse du Seigneur Jésus, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et donc l'apôtre Paul, il continue, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et dans cette méditation qui était intitulée « Réjouissez-vous de vos épreuves », l'auteur conclut en disant « C'est quand nous sommes au plus bas du désespoir que nous découvrons le mieux la puissance de Dieu en nous. » Mais lorsque nous sommes dans la souffrance, ce que nous voyons en premier, ce que nous voulons en premier, c'est que le Seigneur nous délivre de cette souffrance. Et nous ne voyons pas toujours qu'à travers ce désespoir, nous pouvons découvrir et laisser la puissance de Dieu agir en nous. Et donc, frères et sœurs, est-ce que nous avons ce discernement spirituel, cette lucidité pour laisser agir la puissance de Dieu en nous alors que nous sommes dans le plus grand désespoir? Donc nous voulons ensemble être encouragés à apprendre à supporter les épreuves que la vie nous réserve, parce qu'il y en a et il y en aura toujours. Déjà pour comprendre cette parole du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il faut arriver à le comprendre, il faut le vivre. Mais aussi pour apprendre à laisser agir cette puissance qui est en nous. Et dans la souffrance, nous oublions que cette puissance est en nous. Et nous voulons surtout agir avec nos propres forces. Apprendre à laisser agir cette puissance qui est en nous. Ainsi, nous pourrons dire, comme l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pourquoi je me plais. Parce qu'il sait laisser la puissance de Christ agir en lui. Les chrétiens de Thessalonique, ces jeunes chrétiens, quelques semaines de vie chrétienne, quelques mois, l'apôtre Paul a dû partir précipitamment parce que lui-même était persécuté par les Juifs. Et donc il est parti à Athènes après Corinthe. Et vous savez, dans sa première lettre à cette église, donc il a voulu les encourager par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient. L'apôtre Paul, il souligne ces souffrances que ces chrétiens ont rencontrées. Dans les Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. » Donc ces personnes, lorsqu'elles ont entendu la parole, elles ont mis leur foi en Jésus, elles ont été tout de suite confrontées à des épreuves, à cause de leur foi. Et donc l'apôtre Paul a demandé à Timothée de rester là avec ces jeunes chrétiens pour les encourager, les exhorter, et puis que leur foi ne défaille point. Cette église était éprouvée de diverses manières, et notamment à cause de leurs propres compatriotes qui ne voulaient rien entendre de l'évangile. Et dans Thessaloniciens 2, c'est ce que l'apôtre Paul dit, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Combien de fois il parle de souffrance dans ses lettres, et là encore dans notre chapitre, il est parlé des afflictions que rencontrent ces chrétiens. Mais l'apôtre Paul leur dit qu'ils ne devaient pas être surpris. L'apôtre Paul les avait déjà avertis. Vous mettez votre foi en Jésus, mais attendez-vous à avoir des souffrances. Il le dit au chapitre 3, « Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annonçons d'avance que nous serons exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Nous sommes dans un pays où on peut se réunir librement, mais combien de chrétiens dans le monde sont éprouvés à cause de leur foi ? Et ils doivent apprendre à supporter ces épreuves. Mais dans la vie, nous avons combien de choses qui peuvent nous faire en sorte que nous soyons dans l'épreuve ? Combien de situations, la maladie, les difficultés dans la famille, etc., etc., la souffrance, nous pouvons l'avoir tout le temps. Les difficultés, les épreuves, frères et sœurs, ne sont pas là pour décourager ou écraser les chrétiens. Les épreuves ne sont pas là non plus un signe qui montre que Dieu nous est défavorable. Ce n'est pas ça du tout, ni une punition de Dieu. Ça fait partie des choses de la vie. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera épargné de la souffrance. Bien au contraire. Si l'épreuve fait partie de la vie, et ça fait partie, c'est l'une des conséquences aussi du péché depuis Adam et Ève, le chrétien en plus peut être affligé à cause de sa foi aussi. La question donc, c'est comment pouvons-nous, à travers la souffrance que nous pouvons rencontrer là aujourd'hui, connaître, laisser la puissance de Christ s'accomplir dans notre faiblesse. Et pour cela, nous devons comprendre les raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance dans notre vie. Et très souvent, nous ne comprenons pas pourquoi nous passons par telle ou telle épreuve. Dieu permet la souffrance. Déjà, dans un premier temps, on peut dire pour éprouver notre foi. Au verset 4 de notre chapitre, là, l'apôtre Paul nous dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions que vous avez à supporter. » Donc, l'apôtre Paul, il se réjouit de voir ces chrétiens qui tiennent ferme dans la foi, malgré les épreuves qu'ils rencontrent. Le fait que ces chrétiens restent fidèles à leur Dieu, malgré les souffrances, c'est un sujet de joie pour l'apôtre Paul. Et donc, et il peut se réjouir parce qu'il peut dire, eh bien, c'est de véritables chrétiens. Puisque l'épreuve est là pour révéler la réalité de notre foi. Et il dit que, au verset 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc là, il rappelle que le jugement de Dieu est juste car il a pour but de dévoiler si l'on est digne du royaume de Dieu. Là, il ne faut pas voir jugement comme condamnation. C'est ce que Dieu permet et ce que Dieu autorise, il décide. Et dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit au verset 17 et 18, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. » C'est « si toutefois nous souffrons avec lui » afin d'être glorifié avec lui. Et donc il continue, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc ce n'est pas les souffrances qui vont me faire déchoir pour que je sois privé de cette gloire qui m'attend. L'épreuve révèle la réalité de la foi. Et le Seigneur Jésus l'a expliqué aussi dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, versets 20 à 21. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, frères et sœurs, chers amis, quelle est la réalité de votre foi? Et c'est dans la situation qu'on peut se poser ces questions. Et parfois dire, oh Seigneur, j'ai réagi comme ça, je vois que ma foi a besoin de grandir encore. Je vois que finalement, je ne suis pas si fort que je le pensais. J'ai besoin encore de grandir en toi. Pour que, face à une autre situation, je puisse tenir ferme. L'autre chose, c'est que Dieu permet la souffrance pour que, l'apôtre Paul dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les épreuves ne doivent pas être un frein à notre croissance spirituelle. Bien au contraire, elles sont là pour que nous apprenions à dépendre de Dieu, à nous enraciner en lui, à avoir une communion beaucoup plus forte avec notre Seigneur. Et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'autre chose, c'est que Dieu permet la souffrance. Il est dit que pour que nous participions à sa sainteté. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous dit que nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. L'apôtre Pierre le dit aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, il dit, mais puisque celui qui nous a appelés saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc ça, c'est l'objectif. Et Dieu permet la souffrance pour que nous puissions grandir en sainteté. Ce que Dieu veut, il dit qu'il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Et pour atteindre cet objectif, le Seigneur Jésus a utilisé l'image de la vigne et du vigneron qui émondent les sarments pour qu'ils portent plus de fruits. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions porter plus de fruits. Et il va nous émonder. Et ça, ce n'est pas agréable. Et les épreuves, la souffrance, la maladie, tout cela, ça doit nous aider à continuer à grandir spirituellement et porter plus de fruits et avoir une vie qui soit à la gloire de Dieu. Donc la crainte de l'apôtre Paul, c'était que certains de ces chrétiens de Thessalonique ne ressemblent à ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ils craignaient que le tentateur ne les avait tentés et que ses compagnons et lui avaient travaillé en vain. Et donc, il va demander à Timothée de rester avec ces chrétiens pour les affermir, les exhorter. Et une fois que Timothée va revenir, il va le rassurer, il va donner des bonnes nouvelles de cette église concernant leur foi, leur amour. Donc, ça a été pour l'apôtre Paul une consolation et la preuve que ces chrétiens étaient dignes du royaume de Dieu. On peut lire ensemble 1 Pierre, chapitre 5. Alors, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc voilà, vous voyez, le Pierre dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et de manière plus générale, les mêmes souffrances, vous avez votre voisin, vous avez tel collègue, ils connaissent les mêmes souffrances. Et chacun a un degré différent. Donc on n'est pas exempt de cela. Et la question, c'est comment gérer cette souffrance. Et il dit aussi même que la souffrance dure un temps. Hein? Il dit c'est pour un peu de temps, il dit. Et pour nous, lorsqu'on est dans la souffrance, c'est trop long. Et parfois, il y a des personnes qui, ça dure des années et des années, qui prient et qui ne voient pas la réponse du Seigneur. Ils continuent à prier. Ils continuent à lutter. Parfois, c'est la maladie et parfois, c'est des années. Il faut vivre avec cela où on souffre cruellement. Mais même si c'est long, même trop long, au vu de Dieu, c'est peu de temps. Mais en attendant, si nous comprenons que ce que Dieu veut, c'est nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables, c'est comme ça qu'on arrive à gérer la souffrance. Puisqu'on a compris que Dieu va utiliser ça, Dieu veut utiliser cette situation, et s'il le permet, ce n'est pas pour rien, et il va faire son œuvre en moi. Et donc, si nous avons compris quel est l'objectif de Dieu pour notre vie, lorsqu'il permet la souffrance par sa force toute puissante, nous serons plus à même de supporter les afflictions présentes. Alors, à travers ce texte, j'aimerais souligner trois points. Déjà, avoir le désir de progresser dans notre vie chrétienne. Être persévérant dans l'épreuve, verset 4, mais aussi continuer à être et vivre dans l'attente du secours de Dieu. La première des choses, c'est que nous pouvons apprendre et supporter les difficultés présentes en ayant ce désir de progresser dans notre vie chrétienne. Puisque nous avons vu que si Dieu y permet la souffrance, c'est pour que nous progressions dans la sainteté, pour que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, est-ce que nous avons ce désir de continuer à progresser? Progresser dans la foi, puisque la foi des Thessaloniciens, il dit, a progressé malgré les tribulations, mais aussi grâce à ces tribulations. Le verset 3 est dit, et l'apôtre Paul dit qu'il rend continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus, malgré les tribulations, malgré les souffrances. Et c'est parce que dans l'affliction, ils ont appris à se rapprocher de Dieu, ces chrétiens, par la prière, comme cela a été souligné tout à l'heure, l'importance de la prière. Et l'apôtre Paul, qui avait donc reçu cette écharde dans sa chair, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. C'est ce qu'on peut faire. Prier, il dit, à trois reprises, il a prié. Et par la prière, on témoigne de notre foi et on montre à Dieu que oui, on croit et on ne va pas lâcher et on attend de lui le secours. Et c'est également parce que ces chrétiens, ils ont progressé dans la foi parce que ils ont appris à vivre dans la dépendance de Dieu et de sa parole. Parce que pour eux, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 2, la parole qu'ils ont reçue, la parole qui a été prêchée, n'est pas parole des hommes, mais c'est parole de Dieu. Donc, ils s'appuyaient, leur foi était fondée sur la parole de Dieu parce qu'ils croyaient que Dieu était le Dieu Tout-Puissant qui pouvait agir, qui pouvait intervenir, qui pouvait faire quelque chose dans leur situation. Et donc, leur foi continuait à grandir. Ils progressaient aussi dans l'amour. Et cet amour, l'apôtre Paul l'avait déjà souligné dans 1 Thessaloniciens. Mais là encore, il souligne que cet amour continue à augmenter de plus en plus. Il dit l'amour à l'égard des autres. Qui fait que malgré la souffrance, ces chrétiens ne se repliaient pas sur eux-mêmes, mais ils continuaient à être ensemble et ils se fortifiaient ensemble et ils témoignaient de leur amour les uns pour les autres, malgré les afflictions, malgré la souffrance. Et malheureusement, frères et sœurs, très souvent, nous faisons l'inverse. C'est que dans l'affliction, nous nous isolons. Nous nous tenons à l'écart et puis nous négligeons les réunions parce qu'on est dans l'affliction. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Quand on progresse dans la foi, on progresse dans l'amour aussi les uns pour les autres. L'autre chose, c'est que nous pouvons supporter les afflictions déjà aussi en étant persévérants. Le verset 4, il dit, donc l'apôtre Paul, il dit, nous nous glorifions de vous dans les églises à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Donc face à la persécution, ils ont fait preuve donc de patience, ils ont fait preuve de courage, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ne se sont pas laissés écraser par le poids des difficultés. Mais ensemble, ils ont trouvé en Dieu la force, ils ont trouvé en Dieu le courage pour tenir ferme. Ensemble, ils sont restés fidèles à leur Seigneur et leur Maître parce que ils trouvaient ensemble la consolation que Dieu pouvait leur donner. Ça me fait penser à ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, dans Daniel. Et dans ce passage, on voit que ces amis de Daniel, ils étaient ensemble. Et ensemble, ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Ensemble, ils ont été mis dans cette fournaise ardente. Il n'y a pas eu qu'un, mais ensemble ils étaient dans cette fournaise. Et ensemble, ils ont pu jouir de la présence de ce quatrième homme avec eux dans la fournaise. Mais aussi ensemble, ils ont pu voir de leurs yeux la délivrance du Seigneur. Lorsque Nebuchadnezzar, en personne, dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. L'odeur du feu n'était même pas sur eux. Et là, frères et sœurs, nous voyons que pour persévérer, il est important d'être ensemble. Quand on est seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et on se trompe là encore. On se trompe. Puisque, voilà, on veut vivre sa vie chrétienne seule, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Et j'ai noté le texte de Jacques, donc on va le lire. Jacques chapitre 1. Verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et ça, quand on est dans l'épreuve, on a du mal à lire ça. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est en cela que c'est un sujet de joie. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc vous voyez, il y a, on grandit dans la patience, on grandit, il est dit, on soit parfait et accompli, donc on progresse spirituellement, et puis on devient des hommes et des femmes faits en Dieu. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que nous pouvons apprendre à supporter les difficultés en étant toujours dans l'attente du secours de Dieu. Toujours croire, parce que c'est la foi, que Dieu va nous secourir. Dieu va intervenir. Et parce que le secours de Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours comme on veut. Mais le secours de Dieu va se manifester. Alors là, j'ai noté trois choses pour lesquelles le Seigneur peut manifester son secours. Et ça, c'est verset 6, il dit « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » etc. L'apôtre Paul là dit que le Seigneur affligera ceux qui nous affligent. Donc dans le contexte, les chrétiens étaient affligés parce qu'il y avait des personnes qui leur faisaient du mal. Et il leur dit, Dieu va s'occuper d'eux. Ce n'est pas à vous de chercher à vous faire justice par vous-même. Vous subissez des choses, vous êtes dans la souffrance à cause de ces gens-là, mais Dieu va s'occuper d'eux. Et le fait de savoir que Dieu est un Dieu juste et qui va s'occuper des méchants, ça donne de la tranquillité et ça permet de supporter cette épreuve en attendant que Dieu apporte sa délivrance. Et l'apôtre Paul dit dans Romains, c'est pas à nous de faire justice nous-mêmes, mais c'est Dieu le juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. L'autre chose, il dit, il donnera du repos à celui qui est affligé. Oui, le Seigneur va donner du repos. Et ça va venir. Et ce repos, il dit, viendra à coup sûr lorsque Jésus reviendra sur terre pour y régner. Mais en attendant, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus. On ne sait pas s'il va revenir aujourd'hui ou demain. Mais gardez en tête, Seigneur, la souffrance est là, mais je sais que j'ai le repos en toi. Et que viendra le temps où tu me délivreras de cette souffrance. Soit par la guérison, ou même si tu veux m'apporter, me ramener auprès de toi, alors ça jouerait la délivrance. Et ce repos va venir. Et parfois, on voit surtout la délivrance comme la guérison, comme après que tout aille bien. Ça peut être le cas, mais le Seigneur peut apporter la délivrance autrement. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il dit « punira ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, parce que ces gens qui ne connaissent pas Dieu, ils font l'œuvre du diable. » Ceux qui cherchent à persécuter les chrétiens, ils font l'œuvre du diable. Et lorsque Paul, il s'appelait Saul, il ne connaissait pas le Seigneur, il persécutait les chrétiens, le Seigneur l'a arrêté, il lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Donc lorsqu'on cherche à toucher à l'église de Jésus-Christ, c'est à Christ qu'on touche. Et alors attention. Et c'est ça qui me donne la paix, la sécurité, la sérénité. Puisque le Seigneur va punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui sont les méchants. Il y a quelques années, je travaillais et je gérais une équipe avec des collègues compliqués. Et puis dans cette équipe, il y avait deux têtes d'affiche. Il fallait les supporter. Mais le Seigneur m'a soutenu par sa parole. Dans Isaïe, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé à cause de ces deux tisons fumants, il dit. Dans Isaïe. Et ces deux tisons fumants, c'est eux. Et Dieu m'a donné la force pendant toute l'année pour les supporter. Voilà. J'ai été victorieux. Et le Seigneur va juger parce qu'il savait que Dieu allait s'occuper d'eux. Dans la souffrance, frères et sœurs, le chrétien ne doit pas oublier qu'il a mis sa confiance en un Dieu qui est juste et dont le jugement est juste. Et même s'il souffre injustement, il doit garder cette espérance en lui. Le Seigneur Jésus revient et je serai enfin délivré. Je trouverai le repos. Et en attendant, je vais continuer à lui faire confiance. Donc ne vivons pas comme ceux qui vivent sans espérance et sans Dieu dans le monde, car notre Dieu nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Et donc, en attendant le retour de notre Seigneur, nous pouvons supporter les épreuves présentes et à venir si nous désirons progresser spirituellement et donc toujours continuer à chercher à grandir dans la connaissance de Dieu, persévérer au sein de l'affliction, mais comprendre qu'on n'est pas seulement seul, mais avec les autres, puisque être ensemble, c'est important. Mais aussi attendre le secours qui vient de Dieu. Ce secours peut être une guérison, peut être la fin de la guerre, de la persécution, ou quelque chose qui aille mieux. Mais quoi que Dieu va intervenir d'une façon ou d'une autre. Et dans les moments difficiles, pensons donc à ce psaume, le psaume 121, qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et j'aimerais lire aussi, revenir sur ce psaume que Marc nous a lu ce matin, dans le psaume 33. Et en le lisant, là, ça... Et avec ce message en tête, je repensais à ces derniers versets dans le psaume 33, verset 18, quand il dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Et donc, vous voyez, dans ce texte, il dit « Il y a la famine. » Donc, la situation est difficile. Mais Dieu, il va nous faire vivre au milieu de la famine. Et donc, ce verset 20 dit, « Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et donc, en le lisant, je me suis dit, on doit s'approprier ces versets et dire, Seigneur, et prier, Seigneur, j'espère en ta bonté. Et puisque j'espère en ta bonté, Seigneur, je sais que ton œil, l'œil de l'Éternel, est sur moi. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Seigneur, ton œil est sur moi. Je ne suis pas seul. Tu es là avec moi. Tu vois ma situation. Et Seigneur, je crois que c'est toi qui peux m'arracher de la mort. Tu peux m'arracher de cette situation difficile. Tu peux me délivrer. Et même s'il y a encore la famine, Seigneur, eh bien, tu sauras me faire vivre. Tu sauras encore m'accompagner. Tu sauras m'aider à tenir debout. Seigneur, mon âme espère en toi. Tu es mon secours. Tu es mon bouclier. Mon cœur met en toi sa joie. J'ai confiance en ton Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur moi, comme, Seigneur, j'espère en toi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide à affronter les difficultés qui sont là, qui sont réelles, et que nous puissions donner gloire à Dieu dans notre vie. Amen.